Bonjour et bonne année à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Louis Drillon, Julie Delabrosse et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro. Prise de son, Nicolas Delmas.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous poursuivons notre galerie de portraits des grands économistes qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, c'est au père de l'économie moderne que nous allons dédier ce nouvel épisode, Adam Smith, philosophe écossais du XVIIIe siècle, auteur de la théorie des sentiments moraux et bien sûr de la richesse des nations, le meilleur livre de politique économique selon Thomas Jefferson. Un auteur dont la pensée a été souvent déformée et même caricaturée, si bien qu'il apparaît parfois comme le défenseur naïf d'un libéralisme sans foi ni loi, aveuglément confiant dans la capacité du marché à s'autoréguler. Et c'est justement pour dépasser ces fausses représentations et découvrir peut-être le vrai visage de cet auteur fondateur que nous avons invité Jean Delmotte, économiste, maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Alain Bruno, docteur en sociologie, économiste et auteur d'Adam Smith, Vie, œuvre et concept, paru aux éditions Ellipse. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho par Arjuna Andrade.
Il est significatif qu'Adam Smith ait grandi dans un port de la côte est de l'Écosse. La société dans laquelle il vivait connaissait alors une profonde révolution des affaires publiques. Les changements furent d'abord d'ordre religieux. Puis, en 1707, l'Écosse a été rattachée à l'Angleterre par un acte d'union qui est toujours en vigueur. Cette fois, c'est la vie politique qui a été transformée. Ce qui est important pour Adam Smith dans cette révolution des affaires publiques en Écosse, c'est qu'elle place une lourde responsabilité sur la classe moyenne écossaise et son devoir de chercher à améliorer le fonctionnement du pays. Améliorer les institutions écossaises, la religion écossaise et, par-dessus tout, l'économie écossaise.
Jean Delmotte et Alain Bruno, bonjour.
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 Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce qu'on peut dire qu'Adam Smith est à la fois l'économiste le plus connu et celui dont la pensée a été le plus déformée, Alain Bruno ?
Oui, le plus connu sans doute, hein. Puisque ces deux ouvrages ont eu un grand succès au Royaume-Uni d'abord, puis ensuite dans toute l'Europe. Ils ont tous été, les deux ont été traduits dans plusieurs langues européennes. Et en fait, la pensée d'Adam Smith et ses ouvrages continuent d'irriguer finalement toute une série de débats, de réflexions sur l'économie. Donc c'est certainement peut-être pas l'économiste le plus important, parce que il y a un débat sur le fait de savoir exactement dans quelle mesure Adam Smith n'est qu'un économiste, est-ce qu'il n'est pas aussi autre chose, et notamment philosophe, voire psychosociologue, voire humaniste. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il reste une sorte de clé de voûte de l'économie moderne, je pense, si je devais utiliser cette image un peu facile.
Donc peut-être pas l'économiste le plus important, nous dit Alain Bruno, mais peut-être celui dont la pensée a été le plus caricaturée, Jean Delmotte.
Déjà, quand vous le présentez comme économiste, vous faites un choix de présentation, puisque Adam Smith n'était pas nécessairement un économiste, il est avant tout un philosophe qui a écrit, on en parlera, sur la philosophie morale, sur l'économie, mais La richesse des nations, c'est pas qu'un ouvrage d'économie, c'est aussi un ouvrage d'histoire. Beaucoup de remarques historiques. Il a écrit sur les arts, sur l'esthétique, sur la rhétorique, sur l'investigation philosophique. Donc c'est un philosophe du XVIIIe siècle dans toute sa splendeur. Quant à l'auteur dont la pensée était la plus déformée, oui, sans doute. Dans l'histoire de la pensée économique, c'est probablement l'auteur qui a été le plus victime de caricatures, entre autres celle qu'il présente comme l'avocat de la classe des capitalistes, celle qu'il présente comme un philosophe de l'égoïsme ou comme un partisan de l'état minimal. Ces trois lectures sont biaisées, on peut aisément les contester en lisant son œuvre.
Alors on va tenter tout au long de cette émission de dépasser un certain nombre d'idées reçues, mais d'abord je voudrais qu'on revienne à la vie d'Adam Smith, une vie Scandinavie que l'on peut évidemment pas séparer de l'Écosse et en particulier de Kirkcaldy, cette ville sur la côte est où il est né en 1723. Il était très attaché à son pays, Alain Bruneau, et il va en fait passer l'essentiel de sa vie en Écosse.
Oui, en fait, il a très peu voyagé finalement. En fait, il a surtout voyagé en France à une occasion qu'on précise pour accompagner un jeune duc qui, dans le cadre de la formation du duc, était précepteur. Mais finalement, ça a pu jouer aussi sur la réflexion d'Adam Smith, puisqu'il a rencontré en France de nombreuses personnalités économiques, philosophiques, et économiques, notamment des physiocrates, Kennett, Turgot. Et puis, évidemment, philosophique, il a rencontré Voltaire, dont il était un grand admirateur.
Alors, on va y revenir, mais peut-être faut-il expliquer le contexte dans lequel naît Adam Smith au XVIIIe siècle. Les conflits entre le pouvoir central anglais et les clans écossais catholiques, les jacobites, connaissent alors leurs derniers épisodes sanglants.
Oui. Alors, Adam Smith, de ce point de vue-là, en tant que humaniste et finalement un peu pacifiste, il met dos à dos les jacobites et les anglais. C'est-à-dire qu'il estime que c'est du passé, il y a eu une bataille particulièrement sanglante, celle de Culloden. Bon, il veut oublier cette partie de la vie de l'Écosse. Mais par contre, il reste écossais et il veut défendre l'identité écossaise et plus encore la citoyenneté écossaise. À son époque, les Écossais restent maltraités par les Anglais. Et lui-même connaîtra cette situation, puisqu'à Oxford, il sera maltraité par les Anglais. À Oxford, il y a une centaine d'étudiants, et il y a seulement 8 Écossais, qui évidemment n'ont pas tout à fait l'accent anglais, enfin bon, bref, ont une culture écossaise, et ils seront plutôt maltraités, évidemment pas forcément physiquement, mais dans la relation humaine qui normale qu'il y aurait dû y avoir.
On va revenir sur ces années à Oxford, mais d'abord on entend ici « Ye Jacobites by Name », c'est une chanson traditionnelle écossaise consacrée à ces révoltes qui débutent donc à la fin du XVIIe siècle. What is right and what is wrong? A short sword and a long, a weak arm and a strong, for to draw, for to draw. A weak arm and a strong, for to draw. Vous l'avez dit, Adam Smith va s'investir dans la cause écossaise. Oui. Il contribuera même en 1762 à la fondation du Poker Club qui lutte justement pour obtenir l'égalité des droits civiques entre Écossais et Anglais.
Oui, oui. Il est membre fondateur du Poker Club et en fait c'est une organisation, une association plutôt, qui veut absolument que les droits civiques soient identiques pour les Écossais et les Anglais. Et il a aussi participé à un autre club qui s'appelait The Select Society, qui est également très important pour lui parce que c'est dans cette association, il va pouvoir développer les arts et les sciences en Écosse. Et cette association va essayer de va promouvoir la langue anglaise du sud de l'Angleterre, qui est donc, selon Adam Smith et selon l'époque, moi je suis pas angliciste, mais qui est certainement la langue de référence, quoi. Et donc c'est important parce que c'est justement sur son accent qu'il a été beaucoup critiqué par les Anglais à Oxford, et Smith, au lieu d'avoir de la rancune en quelque sorte, il comprend que les Écossais, pour se développer et pour devenir les égaux des Anglais, doivent parler la même langue.
Alors Adam Smith vient d'un milieu privilégié, mais il n'a jamais connu son père, qui est mort très tôt. Oui. Alors comment se passe son enfance à Kirkcaldy? Dès ses 14 ans, il suit des cours à l'université de Glasgow.
En fait, c'est un très bon élève, qui est capable d'assimiler énormément de choses très rapidement et qui est un grand lecteur.
Et il va y avoir un professeur, en particulier Francis Hutcheson, qui va avoir une grande influence sur lui.
Tout à fait.
Il l'ouvre en particulier à la philosophie stoïcienne.
Voilà, c'est cela. Alors Hutcheson, c'est effectivement le mentor, en quelque sorte, de l'adolescent, du pré-adolescent même, Adam Smith, puisqu'après Adam Smith va aller à Oxford. Mais il va, tout en conservant une grande amitié envers son professeur, il va quand même abandonner ses thèses stoïciennes et il va passer à autre chose.
Et en 1740, alors il a 17 ans à ce moment-là, il va donc poursuivre ses études à Oxford grâce à une bourse qui est réservée aux élèves qui se destinent à des fonctions ecclésiastiques. Oui. Mais vous l'avez dit, ces années vont être particulièrement difficiles pour lui.
Oui, très difficiles. Alors pour plusieurs raisons. Première raison donc, que j'ai déjà évoquée, c'est son identité écossaise. Deuxième raison, il ne peut pas retourner à Kirkcaldy parce que même si sa mère n'est pas complètement pauvre, elle ne peut pas payer le voyage Oxford-Kirkcaldy, qui est quand même certainement à l'époque très coûteux. Et troisième chose, il trouve que l'enseignement à Oxford est particulièrement vide. C'est-à-dire qu'il estime que la plupart des professeurs ont abandonné depuis longtemps toute relation avec les étudiants intelligents et toute capacité à les former. Et en plus, dans l'ambiance qu'il décrit, les étudiants sont dans ces conditions de, on va dire, à presque nullité de l'enseignement, ils sont absents. Ils ne vont pas au cours, ou certains y vont peut-être pour se distraire, mais... Donc, et lui, il va passer plus de temps en bibliothèque que dans les salles de cours.
Il possédera d'ailleurs une bibliothèque d'environ 3000 volumes, essentiellement en langue française et en langue anglaise.
Oui, mais aussi en latin, grec et italien.
Et alors, il finit toutefois par renoncer à être pasteur à l'âge de 26 ans. Mmh. Et alors, s'il peut prendre cette décision, Alain Bruneau, c'est aussi parce que les conférences qu'il donne commencent à avoir du succès.
Oui, voilà, parce que c'est un orateur exceptionnel. D'ailleurs, c'est anecdotique, mais il a, semble-t-il, dicté la richesse, son ouvrage « La richesse des nations » à quelqu'un qui a écrit donc pour lui. Quand il abandonne l'idée, qui était plutôt de sa mère d'ailleurs, de devenir ecclésiastique, évidemment, il est sans emploi à court terme. Et sa capacité d'orateur va lui permettre de faire des conférences à Édimbourg, qui vont avoir un grand succès. Et ensuite, il sera donc nommé à l'université de Glasgow, où il deviendra professeur.
Et alors, il est passionné par la culture antique, c'est un fin connaisseur de la culture biblique. Oui. Et pour cet homme des Lumières, l'éducation est absolument essentielle. Ah, oui. Il va être professeur pendant près de 13 ans.
Oui, et ensuite, il va même obtenir toute une série de récompenses, puisqu'il va finir d'abord questeur de son université, puis doyen en 1760, et enfin vice-recteur en 1762. Voilà, donc il est largement récompensé et d'une certaine manière c'est mérité puisqu'il a dessus attiré beaucoup de monde à cette université.
Vous avez cité tout à l'heure Alain Bruneau, le voyage que Adam Smith effectue en France. Oui. Il va y rencontrer Voltaire, en effet, Voltaire qu'il admire beaucoup parce qu'il partage avec Voltaire une même vision de Dieu.
Oui, exactement. C'est comme Voltaire, il pense que Dieu est un être suprême, mais qu'ensuite les religions sont en fait des arrangements humains.
C'est un déiste rationaliste.
Voilà, c'est ça, déiste rationaliste, qui est en fait assez caractéristique quand même d'une manière générale du siècle des Lumières. Hein. C'est-à-dire, peut-être un petit détail qui me paraît important, c'est que on connaît bien le siècle des Lumières en France, mais on le connaît moins en Écosse. Or, il est presque semblable, peut-être avec moins de personnes, parce que l'Écosse, évidemment, est moins peuplée. Et en tout cas, le siècle des Lumières est beaucoup plus important en Écosse qu'en Angleterre.
Alain Bruneau a tout à fait raison de le rappeler, c'est très important de rappeler, évidemment, comme on est un peu chauvin en France, quand on pense au siècle des Lumières, on pense à Voltaire, on pense aux encyclopédistes, on pense même à Rousseau, qu'on a tout fait nationaliser alors qu'il était suisse. Mais l'autre grand foyer des Lumières, de penser, il y a l'Allemagne avec Kant, bien sûr, mais c'est l'Écosse. On a parlé de Scottish Enlightenment, c'est-à-dire de lumière écossaise, pour désigner à la fois les foyers de pensée qui s'étaient constitués à Édimbourg et à Glasgow, là où il y avait les deux grandes universités, et tout un tas d'auteurs. On peut citer donc dont on a parlé, mais évidemment David Hume, Thomas Reed, qui prendra la succession de Smith à la chaire de philosophie morale à Glasgow, Dougal Stewart un peu plus tard, Adam Ferguson, qui écrit à peu près à la même époque que Smith. Oui. Donc vraiment un grand foisonnement de pensées et de penseurs.
Et alors vous avez cité David Hume, Jean Telmotte, et en effet, c'est grâce à l'une de ses conférences qu'Adam Smith va rencontrer le philosophe écossais. David Hume qui va jouer un rôle important dans son œuvre, comme nous l'explique Catherine Audard. Elle est professeur de philosophie morale et politique à la London School of Economics.
Il se situe dans un mouvement de pensée qu'on appelle les Lumières écossaises, mais qui a des sources plus anciennes. Si vous voulez, c'est une critique de l'anthropologie rationaliste et au contraire, les passions, les sentiments complexes vont être au premier plan, en particulier la sympathie et l'envie, les deux grands sentiments qui nous mobilise. Et en fait, la conception de la rationalité humaine s'enracine dans les passions et les sentiments et non pas du tout dans l'intellect. Voilà le grand changement. David Hume était son grand ami. Vous savez, ils se promenaient ensemble sur au-dessus d'Édimbourg. C'était vraiment, il était très grande proximité. Et la conception de la sympathie chez Hume a énormément influencé Adam Smith. On retrouve la même idée. Donc, si vous voulez, l'être humain n'est ni condamnable ni une merveille. si vous voulez, les choses sont plus complexes. Et c'est la grande idée de cette époque, c'est l'idée de la passion compensatrice, que les passions négatives puissent être compensées par des passions positives.
Le système de philosophie morale d'Adam Smith s'articule autour du concept de sympathie. On est loin là d'une vision de l'homme comme un être essentiellement égoïste, vision qu'on attribue souvent à Adam Smith, Jean Delmotte.
Oui, d'ailleurs, le premier paragraphe de la théorie des sentiments moraux commence à peu près ainsi, hein, je le cite de tête, aussi égoïste que l'homme puisse être supposé, il y a évidemment des principes dans sa nature qui le conduisent à s'intéresser à la fortune des autres, quand bien même il n'en tirait que pour seul avantage que d'en être le témoin. Donc, dès le premier paragraphe de son ouvrage de philosophie morale, Smith s'inscrit contre les deux versions, en fait, de la philosophie morale, la version égoïste et la version rationaliste, c'est-à-dire qui voudrait que, finalement, les règles de morale sont des dictats ou des produits de la raison. Lui, il va appartenir à un troisième courant, alors qu'il est initié, en fait, avant par quelqu'un qui s'appelait Shaftesbury et qui va être perpétué par Francis Hutcheson, donc c'est important d'en parler, la tradition sentimentaliste qui va faire dériver nos jugements moraux avant tout des sentiments plutôt que de la raison. Et quant à Hume, c'est l'histoire d'une grande amitié. Il va y reprendre effectivement le concept de sympathie. Il va quand même transformer, hein, le rôle que joue la sympathie au sein de la morale. C'est pas exactement le même chez Smith que chez Hume. Et au-delà, chez Hume, ce que Smith va surtout reprendre, c'est tout ou partie de sa philosophie de la connaissance, c'est-à-dire l'idée que la plupart de nos idées viennent de la coutume et de l'habitude. Ça va être tout à fait fondamental dans toute la pensée smithienne.
Et Hume va beaucoup influencer Adam Smith au moment où celui-ci écrit donc ce premier grand ouvrage que vous avez cité, La théorie des sentiments moraux, publié en 1759. Je vous propose justement d'en écouter un extrait lu par Anne Brissier dans Les chemins de la philosophie.
Notre sensibilité envers les sentiments des autres, loin d'être incompatible avec la virilité de la maîtrise de soi, est le principe même sur lequel cette virilité est fondée. C'est le même principe ou instinct qui, dans l'infortune de notre prochain, nous pousse à compatir avec son chagrin, et qui, dans notre infortune, nous pousse à restreindre les lamentations abjectes et misérables de notre chagrin. C'est le même principe ou instinct qui, dans la prospérité et le succès de notre prochain, nous pousse à nous réjouir de sa joie, et qui, dans notre prospérité, notre succès, nous pousse à restreindre la légèreté et l'intempérance de notre joie. Dans les deux cas, la convenance de nos propres sentiments semble être exactement en proportion de la vivacité et de la force avec laquelle nous entrons dans et nous concevons les sentiments de notre prochain. L'homme possédant la vertu la plus parfaite, l'homme que par nature nous aimons et révérons le plus, est celui qui unit la plus parfaite maîtrise de ses propres sentiments originels et égoïstes avec la sensibilité la plus exquise, à la fois envers les sentiments originels et envers les sentiments sympathiques des autres. L'homme qui, à toutes les vertus douces, aimables et tendres, unit les grandes vertus redoutables et respectables, doit sûrement être l'objet naturel et convenable de notre amour et de notre admiration les plus forts. L'homme qui partage le plus les joies et les chagrins des autres est le plus apte à acquérir la maîtrise la plus complète de ses joies et de ses chagrins. L'homme doté de l'humanité la plus exquise est naturellement le plus capable d'acquérir le plus haut degré de maîtrise de soi.
Le plus haut degré de maîtrise de soi, ce traité de philosophie morale, qui est la théorie des sentiments moraux, va connaître un succès immédiat, Jean Delmotte, et il va y avoir un certain nombre de traductions et de rajouts a posteriori.
Alors, il va être traduit plusieurs fois en français, première traduction il me semblait en 1764, mais celle qui va s'imposer beaucoup plus tard, après la mort de Smith, ce sera celle de Sophie Grouchy, la marquise de Condorcet, traduction de 1798, qui va être la traduction de référence en français jusqu'à une période récente. Il y a une dernière traduction chez Puff il y a une quinzaine d'années, qui est d'ailleurs de meilleure qualité. Donc oui, ça va faire le succès de Smith dans l'Europe intellectuelle du moment. D'ailleurs, quand il va être à Paris, il va être invité dans tous les salons parisiens. Ça va être quelqu'un de très apprécié.
Et pour écrire la théorie des sentiments moraux, il s'est notamment beaucoup inspiré du théâtre français des XVIIe et XVIIIe siècles, et notamment des représentations auxquelles il a assisté à Paris.
Je pense tout à fait juste. Alors d'abord, il a lié une amitié avec une actrice qui était également romancière, qui s'appelle Marie-Jeanne Riccobini. pense que ça n'a pas été plus loin que l'amitié. Par ailleurs, ce qui est important, c'est une très bonne question, parce que là, proprement parlé, la théorie des sentiments moraux décrit la vie sociale et morale comme une vaste scène de théâtre, où nous sommes en permanence soit acteurs, soit spectateurs. En fait, l'acteur, c'est celui qui produit une action, qui éprouve un sentiment, et le spectateur, c'est celui qui observe la situation et qui juge. Et Smith va expliquer comme ça les jugements moraux sur ce mode théâtral. Et expliquer que finalement, on est en permanence soit spectateur de l'action des autres, soit acteur jugé par d'autres spectateurs, et même parfois par un spectateur fictif qui n'est pas présent, le spectateur impartial.
Jean Delmotte, vous disiez qu'Adam Smith est plus un philosophe qu'un économiste, mais on va voir que ce traité de philosophie morale n'est pas exempt d'économie. Je vous propose d'écouter Michael Bizou, il est maître de conférences en philosophie à l'université de Nice.
Pour pouvoir travailler ensemble, il faut d'abord que l'amour de soi ait été modéré au niveau de la prudence. Il faut aussi que la colère, parce que dans les affaires, on a toujours l'impression de se faire avoir, ou du moins c'est une tendance qu'on peut de la nature humaine de sous-estimer les mots que l'on fait aux autres et de surestimer les mots que les autres nous font. La colère aussi doit être modérée pour arriver au sentiment moral de justice, ce qui fait que il y a bien besoin de ces deux normes morales que sont la prudence et la justice pour faire des affaires. En revanche, ce qui est vrai, c'est que pour faire des affaires dans le domaine économique, on n'a pas forcément besoin de bienveillance. Dans l'économie d'Adam Smith, on ne fait plus usage d'une certaine passion qui est la bienveillance, mais en revanche, on continue à utiliser les autres passions, comme par exemple la colère, l'amour de soi, et on a besoin des vertus correspondantes, c'est-à-dire la justice et la prudence. On a donc besoin de vertus morales, même dans l'économie.
On a besoin des vertus morales que sont la prudence et la justice pour faire des affaires, mais pas de la bienveillance, selon Adam Smith, Jean Delmotte.
Alors d'abord, je vais saluer la qualité du travail de Michael Bizou, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je connais, qui est un des traducteurs de la dernière traduction de la théorie des sentiments moraux chez Puff, hein, il faut le signaler. Oui, effectivement, dans les affaires économiques, on a moins besoin de bienveillance que de maîtrise de soi, de justice, de prudence, mais il ne faut pas non plus penser que Smith décrit une vie sociale qui serait totalement désincarné, où il n'y aurait plus aucune relation de bienveillance ou d'amitié entre les individus. Et d'ailleurs, Michael comprend très bien expliqué ça dans sa recherche. On a parlé du goût de la lecture pour Smith. Ça, c'est très intéressant parce que notamment dans cette vaste bibliothèque dont on dispose des catalogues, Smith aimait beaucoup la littérature française et notamment il avait un attachement pour la Bruyère et pour les caractères. Et comme l'a montré Michael dans ses travaux, on retrouve cette idée de caractère chez Smith à la fois dans les théories des sentiments moraux et dans La richesse des nations et un peu les mêmes caractères. Et c'est pourquoi c'est important de dire ça. D'abord parce qu'il y a une inspiration littéraire, comme vous l'avez suggéré, et ensuite parce que finalement c'est important par rapport à ce qui est devenu l'économie aujourd'hui. Il n'y a rien de plus éloigné de la perspective smithienne que cette vision d'un homo economicus avec des modes de comportement uniques. Tout le monde agit de la même manière. Au contraire, l'analyse de Smith, aussi bien en termes de morale qu'en termes d'économie, est extrêmement riche parce qu'elle mobilise des caractères, des personnalités différentes, parce qu'aussi elle écrit un traité des passions, justement.
Alors avant de parler de la richesse des nations, il faut peut-être parler de son engagement politique auprès des Whigs, donc la fraction libérale de la classe politique anglaise. Et il va soutenir, Alain Bruneau, l'aile la plus libérale de ce parti, qui était favorable à plus de libre-échange.
Oui, parce que Adam Smith, en fait, ces différentes thèses économiques sont évidemment toujours présentées comme libérales et elles le sont, mais c'est aussi un libéral du point de vue politique. C'est-à-dire, il associe, comme beaucoup d'auteurs du XVIIIe siècle, le libéralisme politique et le libéralisme économique, ce qui est finalement le fondement, en fait, d'une bonne partie de l'évolution des démocraties ensuite. À partir de 1850, pour faire simple, quoi.
Libéralisme économique qui va lui être inspiré notamment par les marchands et les banquiers Glasgow, parce que Glasgow va devenir à partir du milieu du XVIIIe siècle l'une des villes les plus dynamiques du Royaume-Uni.
Plus dynamique d'Écosse et même du Royaume-Uni. Et d'ailleurs, pour rebondir sur la place de l'individu chez Adam Smith, on ne donne pas assez d'importance au fait que justement une bonne partie des constructions théoriques et des analyses d'Adam Smith sont liés sur la façon dont les marchands et les banquiers ou producteurs de Glasgow ont pu lui parler de leurs activités. Et il a transcrit ensuite dans son œuvre, finalement, les bons côtés de la concurrence, les bons côtés du comportement des marchands et de certains producteurs, mais aussi les mauvais côtés. Donc sa réflexion est intéressante parce qu'elle est d'une certaine manière contradictoire. Et donc il peut, lui qui a vraiment parlé comme pas beaucoup d'économistes le font aujourd'hui, avec des chefs d'entreprise vraiment qui prenaient des risques à l'époque en plus, hein, beaucoup plus peut-être qu'aujourd'hui. Il a pu ensuite, à partir de là, s'intéresser au rôle des individus dans l'activité économique et montrer que justement ce rôle et cette interaction et les relations qu'il y a entre les individus sont quand même essentielles dans la vie économique.
Et puis sa rencontre avec Turgot va renforcer Smith dans son approche libérale du commerce intérieur et extérieur, approche qui est à l'époque encore plutôt minoritaire parmi les hommes politiques, marquée par le mercantilisme. Jean Delmotte.
Ah oui, alors il y a Turgot, mais il y a aussi une autre rencontre qui va être importante pour Smith, c'est la rencontre avec François Quesnay, qui était le chef de file des physiocrates, qui est d'ailleurs le premier courant de pensée homogène qui va se désigner par le terme économiste. Nous sommes les économistes, alors que Smith, lui, il disait qu'il était professeur de philosophie morale.
Alors donc peut-être faut-il définir les physiocrates.
Alors les physiocrates, ça émerge à peu près au mi-temps du XVIIIe siècle. C'est un courant qui est localisé en France, qui est autour d'un chef de file qui s'appelle François Quesnay, qui va être assez proche du pouvoir, et qui deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est de penser que seule l'agriculture produit une richesse nette. D'ailleurs, les autres secteurs sont considérés comme des secteurs stériles, où on ne récupère que les avances qu'on y a faites, notamment l'industrie et le commerce. Alors bien sûr, ça s'avérera une erreur de perspective. Et l'autre aspect du mercantilisme, c'est de prôner justement la liberté du commerce. D'ailleurs, c'est les physiocrates qui ont popularisé l'expression « laisser faire, laisser passer », que Smith n'emploie jamais, une expression qui a été d'abord utilisée par Vincent de Gournay.
Alors que le mercantilisme est un courant plus ancien que je vais vous laisser définir, et je vous demanderai aussi comment justement Adam Smith se situe face aux mercantilistes et aux physiocrates.
Alors, le mercantilisme, c'est un courant plus ancien, mais c'est avant tout une invention. De la même manière que les classiques, on dit l'économie politique classique, c'est une invention. C'est Marx qui a popularisé le terme, afin de se désigner des adversaires. Parce que quand on veut avancer ses propres thèses, il est bien utile de se désigner des adversaires, une cible qu'on va chercher à contredire. C'est exactement la même chose qu'a fait Smith avec ce qu'il appelle le système mercantile. L'expression ne vient pas de lui, elle a d'abord été utilisée par Mirabeau, qui était un des membres justement de ce courant physiocrate. Et en fait, par système mercantile, on entend toute une suite d'écrits sur de longues périodes. Ça commence au début du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe. Et en plus, c'est assez éparpillé parce qu'il y a des particularités nationales. On trouve un mercantilisme espagnol, plutôt bullioniste, axé sur les métaux précieux, français qu'on appellera parfois le colbertisme, donc le développement des manufactures, et lié sur le commerce extérieur en Grande-Bretagne. Et c'est pas du tout un courant homogène, et en plus la difficulté c'est que c'est pas des théoriciens en fait, les auteurs qu'on appelle mercantistes, c'est des praticiens. Donc c'est souvent des traités de commerce, des ouvrages de gens qui sont proches du pouvoir, pas vraiment des ouvrages de théoriciens comme Smith. Et Smith va désigner tout ce courant en bloc. Alors, la particularité de ce courant, c'est qu'à l'inverse des physiocrates, il est très protectionniste. Il conçoit le libre-échange comme un jeu à somme nulle. Donc, il pense qu'il y a toujours un perdant, un gagnant. Et donc, c'est la logique de la guerre commerciale. Il faut des droits de douane, voire des interdictions à l'importation des marchandises étrangères. Et en revanche, favoriser les exportations pour dégager en permanence un excédent commercial.
Thank you.
Vous écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
On écoutait le concerto en fa majeur de Thomas Linley le Jeune, un compositeur contemporain d'Adam Smith. Et nous sommes toujours avec Jean Delmotte et Alain Bruno. Nous poursuivons le récit de la vie de ce grand penseur des Lumières. Et venons-en maintenant à l'ouvrage qui lui assurera la postérité, la richesse des nations, ou plutôt Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, publié en 1776. La première édition va se vendre en 6 mois. Et alors nous parlions de mercantilisme et ce qu'Adam Smith dénonce notamment dans la richesse des nations, c'est cette proximité entre les industriels et le pouvoir, Jean Delmotte.
Oui, parce qu'effectivement, je vous ai donné quelques caractéristiques du mercantilisme, mais celle que Smith dénonce le plus, finalement, celle qui lui dépeint le plus, c'est la proximité qu'il y a dans ce qu'il appelle le système mercantile entre d'un côté les industriels et les marchands, c'est-à-dire on dirait aujourd'hui les capitalistes, le terme n'est pas encore galvaudé à l'époque, et le pouvoir. Et ça, ils ont trop l'oreille, en fait, des gouvernants, ce qui amène finalement les gouvernants, parce qu'à travers les discours mercantiles, on identifie finalement la richesse de la nation avec l'intérêt des commerçants, et l'intérêt des commerçants avec l'intérêt des souverains. Et ça, ça amène finalement le pouvoir à prendre des décisions qui favorisent systématiquement cette classe de la population au détriment du reste de la société. C'est pas moi qui l'invente, c'est exactement les mots qu'emploie Smith, notamment dans la conclusion du livre 1 de la richesse des nations. Alors, quelles décisions, par exemple, la mise en place de monopoles. Le monopole, pour Smith, ça se fait dans l'intérêt d'un marchand, évidemment. Quelqu'un qui dirige une branche de commerce a intérêt à être en situation de monopole, il n'a pas de concurrence, mais c'est néfaste à l'ensemble de la société, puisque le prix de monopole va être plus élevé, comme on le sait généralement, que le prix qui s'imposerait avec quelque chose de plus concurrentiel. Et une autre dimension de cette importance ou ce gouvernement, parfois des marchands, c'est ce qu'on voit à l'œuvre à son époque dans les colonies, et notamment avec la compagnie de commerce des Indes, la compagnie britannique, avec il y a eu un désastre au Bengale avec une famille. Alors je crois que vous vouliez en parler justement.
Alain Bruno.
En fait, dans son ouvrage La richesse des nations, la partie qui critique le mercantilisme ne s'appelle pas critique du mercantilisme. Le titre, c'est colonie. Et donc il y a une analyse de tout le système colonial, et notamment britannique, bien entendu, et il montre que ça s'est complètement associé au mercantilisme. Et on pourrait l'appliquer aussi, évidemment, pas seulement à l'Empire britannique, mais aussi au début de l'Empire français, puisque le colonialisme français, et puis d'autres pays européens, Portugal, Espagne, enfin l'Espagne c'est plutôt avant, mais l'économie française se comporte aussi d'une manière colonialiste au XVIIIe siècle.
C'est ce qui explique, selon vous, que la richesse des nations, dès sa parution, connaît un tel succès, Alain Bruno ?
Oui, peut-être, mais en fait, le succès peut tenir aussi à d'autres aspects que on pourrait considérer comme un peu plus sociaux. C'est-à-dire, moi, je crois que ce qui intéresse beaucoup, évidemment, c'est difficile de se mettre à la place des lecteurs du XVIIIe siècle, mais au-delà des pages sur le mercantilisme qui sont très fortes, hein, où vraiment il y a une attaque sévère, et je pense que ce sera très efficace d'ailleurs dans la suite des événements, parce que si le libre-échange a pu prendre autant d'importance, c'est en partie à cause de ce livre. Puis après, évidemment, la théorie ricardienne qui va finir d'achever les pratiques mercantilistes. Mais je crois que l'autre aspect qui est très important dans la richesse des nations, c'est la place des individus, et notamment les deux concepts clés qui sont la division du travail et l'échange. Parce que là, c'est vraiment les individus qui sont pris en compte. Et constamment, Adam Smith montre que l'individu doit, dans l'économie, être l'objet, finalement, de la réussite économique. C'est-à-dire qu'il est favorable, finalement, comme disait Marc Bloch, à un bien-être subjectif. La quête, en fait, de l'économie, ça devrait être de réaliser le bien-être subjectif.
La division du travail, c'est une théorie à laquelle Adam Smith est arrivé après avoir étudié une manufacture d'épingles, Jean Delmotte.
Alors, très exactement, on n'est pas tout à fait certain que Smith ait physiquement visité une manufacture d'épingles. C'est tout le paradoxe. Smith, on a parlé de ses influences. Dans les influences qu'il y a, c'est aussi la démarche empiriste. Et notamment, elle a été mise en œuvre par Francis Hutcheson dans sa philosophie morale. Donc, l'idée de toujours se rapporter au fait que toute connaissance vient de l'expérience sensible et qu'il faut toujours démontrer le discours par un exemple tiré de la vie concrète ou alors de l'histoire passée. Et c'est typiquement ce qu'il fait avec l'exemple de la manufacture d'épingles. Mais pour cet exemple en particulier, on a remarqué que les 18 opérations nécessaires à la fabrication d'une épingle dans la manufacture, que cite Adam Smith, sont exactement les mêmes que celles qu'on trouve dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert à l'article épingle. Et d'ailleurs, auparavant, dans le dictionnaire de commerce de Jérôme Savary, il y avait aussi une description très minutieuse de la manufacture d'épingles. Or, Smith était un grand lecteur, il avait ses ouvrages là, notamment notamment l'encyclopédie, dans sa bibliothèque. Il a chroniqué pour une revue philosophique de l'époque, l'Edinburgh Review, donc il n'ignorait certainement pas ce chapitre. Mais peu importe, l'essentiel c'est que nous, lecteurs, on ait l'impression que Smith nous prenne par la main et nous emmène avec lui visiter une manufacture d'épingles.
On le disait en début, au début de cette émission, la pensée d'Adam Smith a été beaucoup caricaturée, et notamment bien sûr sa fameuse théorie de la main invisible. Or, cette expression n'apparaît en réalité qu'à 3 reprises dans son œuvre, Jean Telmotte.
Oui, la main invisible, c'est un peu une tarte à la crème, malheureusement, et ça fait partie de, je crois, des caricatures les plus néfastes au niveau associé à Adam Smith. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Là, il me faudrait 2-3 minutes.
La première occurrence,
c'est dans l'histoire de l'astronomie. L'histoire de l'astronomie a certes été publiée à titre posthume en 1795, donc après la mort de Smith, mais selon toute probabilité, a été rédigée avant la théorie des sentiments moraux. Donc, ce serait un de ses premiers écrits. Alors, il l'a probablement un peu modifié entre la première rédaction et son décès.
Et là, il parle de la main invisible de Jupiter.
Exactement. Et ici, la main invisible symbolise la pensée pré-scientifique, c'est-à-dire les croyances et les superstitions des sauvages, des gens qui ne sont pas sauvages parce qu'ils sont congénitalement sauvages, mais parce que leurs conditions matérielles d'existence ne leur permettent pas de philosopher. Et comme ils n'ont pas de philosophie ou pas d'explication scientifique, quand quelque chose d'imprévu survient, on renvoie l'explication à la main invisible de Jupiter, c'est-à-dire on fait de l'anthropomorphisme.
Adam Smith évoque également la main invisible dans la richesse des nations. Et écoutons cet extrait qui est lu par Aliette Ovine de l'équipe d'Entendez-vous l'écho.
Le revenu annuel de toute société est toujours précisément égal à la valeur échangeable de tout le produit annuel de son industrie. Ou plutôt, c'est précisément la même chose que cette valeur échangeable. Par conséquent, puisque chaque individu tâche le plus qu'il peut, premièrement d'employer son capital à faire valoir l'industrie nationale, et deuxièmement de diriger cette industrie de manière à lui faire produire la plus grande valeur possible, chaque individu travaille nécessairement à rendre aussi grand que possible le revenu annuel de la société. À la vérité, son intention en général n'est pas en cela de servir l'intérêt public, et il ne sait même pas jusqu'à quel point il peut être utile à la société. En préférant le succès de l'industrie nationale à celui de l'industrie étrangère, il ne pense qu'à se donner personnellement une plus grande sûreté, et en dirigeant cette industrie de manière à ce que son produit ait le plus de valeur possible, il ne pense qu'à son propre gain. En cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus mal pour la société, que cette fin n'entre pour rien dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société que s'il avait réellement pour but d'y travailler. Je n'ai jamais vu que ceux qui aspiraient dans leurs entreprises de commerce à travailler pour le bien général aient fait beaucoup de bonnes choses. Il est vrai que cette belle passion n'est pas très commune parmi les marchands et qu'il ne faudrait pas de longs discours pour les en guérir.
Alors, comment définir ici le sens de la main invisible chez Adam Smith, Jean Delmotte?
Alors, d'abord, une chose, vous avez vu que la critique des marchands apparaît à la fin de la citation. Je reviens un tout petit peu sur l'histoire de l'astronomie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la main invisible, ça peut pas être un théorème ou un principe, puisque symbolise précisément l'absence de théorème ou l'absence de principe explicatif. Donc, en fait, si on regarde bien ici la citation de la richesse des nations, il y a rien d'invisible. Il y a rien d'invisible parce que tout est expliqué par Smith. Si un investisseur, par motif de précaution, investit sur le territoire national et part à pas pour le gain là où ça rapporte le plus, ben ça va produire a priori le plus de valeur au niveau de l'échelle de la société. Donc s'il y a une main invisible, c'est bien parce qu'il n'y a pas de main et elle n'est invisible que pour quelqu'un qui n'a pas lu Adam Smith. Ensuite, on l'a souvent associé au marché. Alors, dans l'histoire de l'astronomie, évidemment, on ne parle pas de marché. Dans la théorie des sentiments moraux, on parle des dépenses de l'X d'un risque propriétaire terrien. Donc, on est plutôt dans une société féodale en disparition que dans une économie de marché. Et même là, dans cet extrait où on parle bien de la société commerciale, la société de l'époque de Smith, on ne parle pas de marché à proprement parler, mais d'investissement productif, c'est-à-dire quelque chose qui se situe en amont du marché. Au-delà, ce que symbolise la métaphore de la main invisible, c'est probablement les conséquences inintentionnelles et bénéfiques de certaines actions individuelles. Mais c'est pas systématique. Toutes nos actions individuelles, quand bien même seraient-elles orientées vers la poursuite de notre intérêt privé, n'ont pas des conséquences bénéfiques.
En cela, Jean Delmotte, Adam Smith reprend un argument qui avait été développé par Bernard Mandeville dans la fable des abeilles, cette idée que les riches propriétaires terriens entretiennent des milliers de pauvres grâce aux revenus qu'ils génèrent et malgré eux, d'une certaine façon.
Alors ça, c'est la reprise de la main invisible dans des sentiments moraux, effectivement. Alors, c'est tout à fait vrai, Smith reprend, on peut même dire qu'il plagie l'argument qu'on trouve dans la fable des abeilles de Mandeville, mais attention, Smith n'était pas d'accord avec Mandeville sur tous les sujets. En réalité, c'est l'auteur qu'il critique le plus souvent dans sa théorie des sentiments moraux. Il parle du système licencieux du docteur Mandeville. Et notamment, ce qu'il reproche à Mandeville, c'est de nier toute distinction entre vice et vertu. Mais pour cette question de l'utilité du luxe, il reprend clairement son argument. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas tout à fait curieux, il ne mentionne pas du tout Mandeville quand il reprend son argument, alors qu'il n'oublie pas qui il est quand il s'agit de le critiquer.
Est-ce qu'on peut dire, Alain Bruneau, qu'on voit tout de même dans cette métaphore de la main invisible, qui est plus complexe qu'on ne le croit, comme on vient de le voir, est-ce qu'on y voit tout de même les germes de la pensée libérale et cette idée que l'articulation des intérêts individuels, soumis à la pression de la concurrence, assure de façon efficace la régulation des processus économiques ?
Bon, ce qui est certain, c'est que c'est effectivement ce que les néoclassiques et les libéraux ont essayé de démontrer, puisqu'ils ont utilisé les mathématiques pour essayer de démontrer que finalement l'intérêt, la somme des intérêts individuels générait un intérêt général. Donc ils ont finalement tiré, à mon avis, cette métaphore d'Adam Smith dans une direction qui n'était pas forcément celle qu'Adam Smith pensait. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé, par rapport à la version qui est dans la richesse des nations, qu'en fait, finalement, ce que décrit Adam Smith, c'est une sorte d'externalité positive. C'est-à-dire que, finalement, ceux qui investissent, ceux qui s'enrichissent, finissent par rendre service à d'autres personnes, à d'autres entreprises. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'externalité positive dont tout le monde va bénéficier.
Jean Delmotte.
Oui, je partage ce que vient de dire Alain Bruneau. Alors effectivement, il y a une première association de la main invisible qui est galvaudée, celle au marché, mais elle ne tient pas parce que si on lit les textes, on ne parle pas du marché. Et l'autre interprétation qui semble peut-être plus cohérente, c'est cette idée d'identité naturelle ou d'harmonie naturelle des intérêts. Puisqu'effectivement, soit le propriétaire ne pense qu'à lui quand il entretient une armée de serviteurs, mais ça fournit des revenus alors qu'il pense qu'à sa convenance. Et ici, le capitaliste pense à sa sécurité, à son gain. Le problème, c'est que cette harmonie des intérêts n'a absolument rien de systématique chez Adam Smith. Quand on lit le chapitre 8 de La richesse des nations sur les salaires et justement l'opposition entre capitalistes et travailleurs au niveau de la détermination du taux de salaire, on voit qu'il y a au contraire une opposition d'intérêts irréductible. Je vous donne un autre exemple, la division du travail. On s'arrête souvent au livre 1 de La richesse des nations, parce que c'est vrai qu'il est fatigant d'aller jusqu'au livre 5 dans un ouvrage qui fait plus de 1000 pages. Et on voit que des avantages, des aspects positifs de la division du travail. Mais quand on arrive au livre 5, qui porte sur le rôle de l'État, on apprend qu'en fait la division du travail dans sa forme technique, c'est-à-dire la partialisation d'un procès de production en tâches élémentaires, n'apporte rien à l'ouvrier. Au contraire, elle rend aussi stupide qu'une créature humaine peut le devenir. En fait, elle désocialise, elle abrutit les travailleurs. Or, l'intérêt d'un capitaliste, c'est évidemment de développer la division du travail. Donc, on voit qu'ici que l'intérêt de l'employeur, du capitaliste, va à l'encontre de l'intérêt de la population dans son ensemble, en tout cas de sa partie la plus importante, les travailleurs. Travailleurs que Smith prend toujours comme référent dans La richesse des nations.
Alors, il y a une autre vision que vous battez en brèche, Jean Delmotte, celle de la liberté. Adam Smith défend ce qu'il appelle la liberté naturelle. Et en cela, là encore, il s'oppose aux mercantilistes et aux physiocrates. Il ne défend pas une liberté totale qui limiterait l'action de l'État aux seules fonctions régaliennes.
Bien entendu. Alors, d'abord, de quelle liberté il s'agit ? On le voit, en fait, illustré avec la critique du mercantiliste dont on a parlé et la métaphore de la main invisible. La liberté naturelle, c'est avant tout la liberté d'investir. Et sur ce plan-là, Smith est extrêmement clair. On doit laisser aux propriétaires de capitaux le soin de les investir où bon leur semble. Alors la liberté peut s'étendre à d'autres champs, notamment le champ politique. Par exemple, on n'en a pas parlé, mais Smith était un fervent opposant à l'esclavage. Il va d'ailleurs en parler dans La richesse des nations de manière assez subtile, puisqu'il sait très bien que c'est pas par les sentiments qu'on va attraper les gens qui ont des plantations, qui utilisent les esclaves. Il va expliquer que c'est tout simplement pas efficace et qu'il vaut mieux des travailleurs salariés. Donc, évidemment, Smith est pour plus de liberté dans son ensemble. Liberté de circulation des marchandises, il est libre-échangiste, liberté d'investissement, liberté de circulation des personnes. Mais, comme l'explique très bien Alain Bruneau dans son ouvrage, j'ai trouvé de très bonne qualité, Smith est un libéral non doctrinaire. Il est avant tout pragmatique. Et ce qui importe pour lui, c'est finalement le référent, ça reste toujours la masse du peuple, ce qu'il dit « the bulk of mankind », c'est-à-dire les travailleurs, et on doit prendre les décisions, si on doit conseiller les princes, qui améliorent le niveau de vie des travailleurs. Or, dès lors que la liberté menace le bien-être général, l'utilité générale, alors Smith dit clairement qu'il faut la contrôler. Par exemple, sur la limitation de l'émission de billets de banque, parce qu'il y a l'expérience désastreuse de l'eau en France quelques temps auparavant. C'est un exemple parmi d'autres.
L'eau qui était écossaise aussi.
Et donc le choix d'allouer les capitaux dans tel ou tel domaine doit relever de l'initiative privée. Ça, c'est une exigence absolue pour Adam Smith. Ce n'est pas le rôle de l'État, Alain Bruneau.
Adam Smith dit clairement que le rôle de l'État est bien sûr d'abord de s'occuper de ce qu'on appelle ces activités de souverain, c'est-à-dire protéger à l'intérieur et à l'extérieur les citoyens, et puis également aussi remplir sa mission de justice. Mais l'État doit aussi, finalement, remplacer les marchés lorsqu'ils sont défaillants, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas capables de fournir les biens publics que devrait posséder toute économie nationale bien portante.
Et pour Adam Smith, c'est aussi à l'État d'ériger, d'entretenir certains ouvrages publics et institutions bénéfiques pour la collectivité.
Oui. Vous l'avez très bien dit, c'est ce qu'il appelle le troisième devoir du souverain, donc ce qui montre qu'en fait l'action de l'État, d'après Adam Smith, dépasse celle de ce qu'on appelle l'État minimal, voire même de l'État régalien, parce que les fonctions régaliennes, c'est justice, diplomatie, police.
Tout le monde est d'accord sur ce point.
Défense. Donc ça va au-delà. Il s'agit donc, par exemple, de financer et d'entretenir les infrastructures qui développent le commerce, les ponts, les routes, les ports, tout ce genre de choses. Donc Smith aurait été probablement hostile à la privatisation des autoroutes, puisqu'il faut que l'État conserve l'entretien de ces infrastructures. Il y a aussi l'éducation qui fait partie de ces ouvrages et institutions qui sont du ressort de l'État. Et la définition qu'il donne de ce troisième devoir est tellement générale qu'on pourrait y faire entrer, d'ailleurs vous en parlez, d'autres aspects comme l'activité culturelle, pourquoi pas un système de santé, parce que ça peut être utile, que les épidémies se protègent pas. Pourquoi pas aujourd'hui les télécommunications, la fourniture d'énergie, tout un tas de domaines en fait, qui sont des domaines d'ailleurs dont on sait très bien dans nos économies occidentales et libérales que l'État les a souvent mises en œuvre et prises en charge.
Quelle vision Adam Smith a des différentes classes sociales? Vous commenciez à le dire, il ne portait pas les rentiers dans son cœur, ni les gros entrepreneurs et les commerçants, Alain Bruneau, pour des raisons différentes.
Oui, je crois qu'il faut revenir sur la division du travail, parce que pour Adam Smith, il y a donc deux divisions du travail. Il y a une division technique qui fait qu'effectivement, il y a une inégalité au sein des entreprises entre, disons, l'exécutant et puis ceux qui organisent. Mais il y a aussi une division sociale du travail. Et les deux divisions ne sont jamais vraiment bien différenciées par Adam Smith, parce que pour lui, elles sont en interaction permanente. Et ce sont bien ces deux divisions qui génèrent du bien-être, qui génèrent de la croissance. Donc, pour répondre vraiment à votre question, pour Adam Smith, il est évident que ces productions de richesses qui sont le fruit des échanges et de la division sociale du travail et technique doivent évidemment bénéficier, dans la mesure du possible, à l'ensemble des personnes qui sont concernées par ce travail. C'est-à-dire, en fait, l'ensemble de la société. Et c'est pour ça qu'Adam Smith, dans certains passages qui sont évidemment peu cités, mais et qui sont peut-être pas assez longs, on peut peut-être lui reprocher ça, pourtant, il stipule toujours qu'il faut que les fruits des richesses produites, puisque c'est quand même la richesse des nations, doivent être répartis d'une manière égale et qu'il faut lutter contre la pauvreté.
Jean Delmotte, sur la vision d'Alan Smith des différentes classes sociales.
Donc il y a trois classes sociales, comme il faut peut-être le rappeler aux auditeurs, dans la perspective des classiques, les propriétaires terriens, les capitalistes et les travailleurs, qui distinguent par le facteur, entre guillemets, qu'ils amènent dans la production. Smith pense que la seule de ces trois classes dont l'intérêt particulier diverge avec l'intérêt général et de manière presque systématique, c'est la classe des capitalistes, c'est-à-dire les industriels et les marchands, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Développement de la division du travail qui abrutit la masse du peuple, esprit de monopole, etc., etc. La classe des propriétaires, Smith la porte visiblement pas dans son cœur. Il dit que c'est les gens qui aiment récolter là où ils n'ont pas semé, mais il considère que malgré tout, leur intérêt converge avec l'intérêt général sans qu'ils le veuillent vraiment. Et en revanche, la classe dont Smith identifie clairement l'intérêt particulier avec l'intérêt général, c'est clairement la classe des travailleurs. Et par rapport à ce qu'a dit Alain Bruneau à juste titre, il se prononce de multiples reprises dans La richesse des nations et dans ses leçons de jurisprudence pour des salaires élevés. Alors, c'est pas l'État qui va fixer un salaire minimum, mais c'est un peu un conseil aux gens qui sont censés le lire, les industriels et les marchands. Vous plaignez souvent des hauts salaires, c'était le discours commun à l'époque, notamment des mercantilistes. Les hauts salaires, ça encourage l'oisiveté, puis ça réduit les profits. Il dit, non, on observera partout que là où les salaires sont le plus élevés, les ouvriers sont plus motivés et plus diligents. Et en plus, ça crée des débouchés.
Et pour clôturer peut-être cette biographie que nous proposons aujourd'hui d'Adam Smith, comment se finit l'existence du philosophe écossais? Qu'est-ce qui caractérise ces dernières années, Alain Bruneau?
Eh bien, en fait, il va avoir des fonctions importantes dans l'administration de son pays, c'est-à-dire à Glasgow. Il va finir commissaire aux douanes et...
Donc il était fonctionnaire.
Donc, et donc il a servi l'État écossais les dernières années de sa vie. Et puis ce qu'on peut noter aussi, qui n'est pas fréquent chez les auteurs, c'est qu'il a fait détruire tous les papiers qui n'étaient pas finis, qui n'étaient pas... Voilà, hélas.
Comment l'expliquer et à qui a-t-il confié cette tâche?
C'est Black et Hutton qui étaient ses éditeurs testamentaires. Oui. Pourquoi? J'en il était visiblement pas satisfait. Oui. Il dit dans sa correspondance qu'il est quelqu'un qui écrit très lentement et qui doit réécrire 6 ou 7 fois la même phrase avant d'en être tolérablement satisfait. Donc probablement qu'il n'était pas tolérablement satisfait de cette partie de son œuvre non publiée. Malheureusement, elle nous manque aujourd'hui. Alors il faut quand même préciser qu'il a demandé qu'on détruise l'essentiel de ses écrits non publiés à l'exception d'un volume qui était publié en 1795 et qui s'appelle Essais philosophiques, Essays on Philosophical Subjects, qui est passionnant, où il y a une histoire de l'astronomie, de la physique, de la logique, un essai sur les arts imitatifs, etc. Donc il avait quand même conservé une poignée d'essais dont il jugeait qu'ils étaient dans un état d'achèvement relativement acceptable pour que le public le connaisse. Malheureusement, il manque beaucoup de choses, et notamment la théorie de la jurisprudence qui aurait dû servir de lien entre sa théorie des sentiments moraux et sa richesse des nations. Ça nous manque. On a les débriefs avec les notes de cours de son cours de philosophie morale à Glasgow et la partie de ce cours qui était consacrée à la jurisprudence qui a été publiée.
Comment est-ce que vous définiriez l'un et l'autre, le libéralisme d'Adam Smith et que diriez-vous d'aujourd'hui de la postérité de l'œuvre d'Adam Smith dans l'économie contemporaine, Alain Bruno?
Déjà pour la postérité, on ne peut être que déçu, puisque en réalité il est à part une déformation de plusieurs de ses propos et ensuite le non-respect de sa pensée sur le rôle de l'État dans une économie libérale, évidemment, on est très loin de ses propositions. Et le libéralisme, en fait, d'Adam Smith, il a été rapidement contourné, détourné par d'autres auteurs. Déjà Ricardo, encore que ce n'est pas le plus coupable, mais...
Jean-Baptiste.
Oui.
Oui. Par exemple.
Oui, voilà, Jean-Baptiste Say, lui, voilà.
En France.
Oui.
Jean Delmotte, sur la postérité de la
Révolution. J'ai exactement le même avis qu'Alain Bruno, hélas. Alors, heureusement, en tout cas, dans le champ académique, il y a un renouveau des travaux et des études sur Adam Smith qui contribue progressivement à mettre en cause certaines idées reçues, à réévaluer justement son œuvre. D'ailleurs, votre émission est très utile à ce niveau-là, hein, puisqu'on peut parler au public et remettre en cause ces caricatures. Donc, postérité, oui, malheureusement, elle n'est pas ce qu'elle aurait dû être. Et quant à quel est son libéralisme, un libéralisme, comme on l'a dit, non doctrinaire, pragmatique et raisonné, et donc raisonnable.
Et pourquoi l'histoire a-t-elle plutôt retenu la richesse des nations que le traité des sentiments moraux, selon vous, Jean Delmotte?
Parce qu'en fait, c'était un ouvrage qui était beaucoup plus facile à détourner que la théorie des sentiments moraux. Parce que pour détourner la théorie des sentiments moraux vers une ligne ultra-libérale, il faut quand même être très doué. Alors que là,
c'est un ouvrage
la chaise des nations, c'est plus facile.
C'est vrai. Et puis c'est un ouvrage qui est peut-être plus analytique, donc plus difficile à saisir, quand même, la théorie des sentiments moraux. Ça cite très bien, comme tous les ouvrages du XVIIIe siècle, enfin des grands penseurs des Lumières, mais c'est quand même assez subtil. Hein. C'est plus facile de populariser la richesse des nations.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi d'évoquer aujourd'hui les conséquences du Brexit sur les revendications indépendantistes de l'Écosse.
Absolument. Près de 230 ans après la mort d'Adam Smith, on ne peut que s'interroger sur la réaction qu'aurait eu l'économiste écossais face aux velléités d'indépendance de son cher pays. Comme on a pu le voir, l'auteur de la théorie des sentiments moraux était en effet un fier partisan d'une plus grande liberté politique et économique de l'Écosse vis-à-vis de la couronne d'Angleterre. Or, le plébiscite écossais en faveur de l'Union européenne pourrait bien aujourd'hui changer la donne. Alors que les Anglais se sont prononcés à plus de 53% en faveur du Brexit, ce sont 63% des Écossais qui ont voté pour rester au sein de l'Union européenne. Un résultat périlleux pour le Royaume-Uni qui ne fait que souligner les profondes dissensions qui existent toujours au sein du Royaume de Sa Majesté.
Des différends dont les indépendantistes écossais entendent bien tirer parti.
Exactement. Le Parlement écossais a ainsi voté en mars dernier en faveur d'un nouveau référendum sur son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, un projet porté par le Parti National écossais dont est issue la Première ministre Nicola Sturgeon. Mais cette nouvelle consultation devait être validée par le gouvernement britannique et la première ministre Theresa May qui lui a posé une fin de non-recevoir expliquant qu'il faudrait attendre que le Brexit soit passé avant de redonner la parole aux Écossais. Une réponse inacceptable pour Nicola Sturgeon qui entendait profiter de cette dynamique pour obtenir son indépendance et rester dans l'Union européenne avant que le Brexit n'entre en vigueur.
D'autant que la première ministre écossaise s'estime lésée par les négociations en cours, Arjuna.
Effectivement, à l'issue d'une rencontre avec son homologue anglaise, Nicola Sturgeon a dénoncé les conséquences désastreuses creuse du Brexit sur l'investissement et l'emploi en Écosse. Elle estime ainsi que son pays serait désavantagé par un retrait du marché unique et de l'union douanière. Elle dénonce également le fait que le projet de Brexit mette en concurrence l'Écosse et l'Irlande du Nord. Celle-ci serait en effet favorisée par un mécanisme de filet de sécurité visant à éviter le retour d'une frontière entre Dublin et Belfast. Il permettrait surtout à l'Irlande du Nord de rester dans les normes européennes jusqu'à ce qu'un accord définitif soit trouvé. L'Écosse, quant à elle, devrait brutalement suivre le Royaume-Uni dans sa sortie de l'Union. On ne pourrait que relever l'ironie de voir les Irlandais se battre pour éviter que le Brexit trace une frontière au milieu de leur île, au moment même où l'Écosse tente de s'en servir pour se détacher de l'Angleterre. Mais dans les deux cas, l'Irlande du Nord et l'Écosse jouent sur le ressentiment anti-britannique dans l'espoir de gagner une plus grande indépendance vis-à-vis de Westminster.
En réalité, cette volonté d'indépendance de l'Écosse est très ancienne et ne fait que ressurgir dans un moment historique qui lui est favorable.
Exactement. Il faut dire que les relations anglo-écossaises furent pour le moins tumultueuses, marquées depuis des siècles par les conflits de succession et les rancunes héréditaires. Des tumultes qui semblent s'apaiser au début du XVIIe siècle lorsque Jacques VI d'Écosse, un Stuart, succède à Élisabeth d'Angleterre restée sans héritier. Pour autant, les deux royaumes restent indépendants et un siècle plus tard, l'Angleterre rejette son roi Stuart, catholique, pour le remplacer par un protestant. Cette décision ouvre une période particulièrement troublée où les partisans de l'ancien roi, les fameux jacobites, tentent désespérément de remettre un Stuart sur le trône. Mais cette tentative s'achève dans le sang et la couronne d'Angleterre se venge en interdisant toutes les composantes de l'identité écossaise, le gaélique, le système clanique et le port du tartan sont proscrits. Le nom même d'Écosse est prohibé. Il faut désormais parler de North of Britain. Adam Smith lui-même prend alors parti contre l'impérialisme anglais et l'on ne peut que s'interroger deux siècles et demi plus tard sur la réaction qu'il aurait eue face à la perspective d'une Écosse libre.
On se quitte sur l'ouverture de Così fan tutte de Mozart. Merci beaucoup Jean Delmotte et Alain Bruno de nous avoir dévoilé un autre visage d'Adam Smith. Jean Delmotte, votre dernier ouvrage, Histoire des idées économiques, est paru chez Dunod. Quant au vôtre, Alain Bruno, Adam Smith, vie, œuvre et concept, il a été publié aux éditions Ellipse. Demain, on s'intéresse à la figure de John Stuart Mill. Et en attendant, vous pouvez bien sûr écouter et réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast et nous rendre visite sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Thank you.